Vibrante,
le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité.
Carole Ruvera est sexologue. Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs.
Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle.
Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie.
Chaque mois, elles reçoivent un ou une invitée qui a un autre regard sur la sexualité.
Jouissons sans entrave.
Bonjour Carole.
Bonjour Laura.
Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, car nous allons parler du plaisir, rien que du plaisir. Et pour cela, on a le plaisir de recevoir Bethony Vernon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Bethony. Vous êtes l'autrice de la Bible du boudoir, livre qu'on devrait toutes et tous avoir entre les mains pour comprendre la sexualité. Et vous êtes aussi une designeuse d'accessoires et de bijoux érotiques de luxe, c'est bien ça?
Oui, en général, je suis aussi un designer. Mais aussi des bijoux.
Et avec vous, on va parler du plaisir. Est-ce que vous êtes prête pour ce joli voyage avec nous?
Oui, toujours.
Pour commencer, comme on a l'habitude dans cette émission, on va à la rencontre des grandes contrôleurs et des grandes contrôleuses, donc les personnes qui sont dans ce lieu, et on leur pose une question. Et on leur a demandé, par exemple, cette fois-ci, ce qu'était l'érotisme, ce qu'était le plaisir pour eux et pour elles.
Pour moi, l'érotisme, c'est déjà une sensation. Une sensation qu'on découvre au fur et à mesure du toucher avec la personne ou les personnes. Ça vient, ça part, c'est jamais la même chose. Ça ne peut pas être la même chose vu que c'est lié au corps, c'est lié à la sensation.
Ma définition à moi de l'érotisme, c'est le partage. Ça peut être du jeu et comme ça peut être de la spiritualité. Et voilà.
L'érotisme, ouais, c'est pour moi, c'est une question de cerveau, intelligence.
Voilà, ça va être ça, c'est l'attente, quoi, quand on est dans l'espoir ou juste dans le rêve ou juste dans le, mais quand il n'y a pas encore de concrétisation.
Ça pourrait être au sens très large dans la mise en scène, c'est-à-dire toute, mais ça revient à se dire aussi dans l'avant, c'est-à-dire toute une, parce que ça peut être aussi les idées, ça peut être aussi une idée soudain qui est planté dans le cerveau de l'un ou des autres ou de l'autre et qui va faire son chemin. Au début, peut-être même qu'il n'est pas du tout érotique et puis peut-être qu'il va faire son chemin et se dire « Oh, et puis on va commencer à la découvrir comme ça et elle va mûrir et puis faire germer d'autres pensées encore. »
Quand on a envie d'exprimer quelque chose qui vient de soi, qui est peut-être refoulé, et puis à ce moment donc, d'érotisme qui vient, on s'imagine quelque chose. Puis là, ça passe souvent aussi par des jeux. De manière qu'on le définit aujourd'hui, l'érotisme, c'est quoi? C'est qu'on, voilà, qu'on, pour moi, ça serait un sort de déguisement, voilà, burlesque, une petite danse, toute la fantaisie qui vient autour de tout ce qui est sexuel, le fun, etc.
Nos grandes contrôleurs et grandes contrôleuses étaient pas mal inspirées. Et Bethony, moi j'ai envie de vous demander aussi de vous prêter au jeu, c'est quoi l'érotisme? Comment est-ce qu'on le définirait?
Pour moi, l'érotisme, c'est quelque chose qui nous excite. Ça peut être aussi dans la littérature, ça peut être dans l'art, c'est quelque chose qui est lié aussi à l'esthétique. Pour moi, c'est quelque chose qui nourrit le désir.
Mais l'érotisme, il est aussi très, très personnel, très intime.
Oui, c'est très intime, c'est très subjectif. Chacun a la chose qui le chauffe. Et comme elle a dit à une des filles que vous avez interviewées, ça peut changer aussi. Donc c'est une question de aussi nourrir cet érotisme. Pour moi, c'est quelque chose qui est, je le trouve dans le quotidien aussi.
Comment est-ce qu'on le trouve dans le quotidien?
Je ne sais pas. Peut-être que j'ai le plaisir dans mes pensées, toujours, mais je aussi quand je vais chercher mes fruits et légumes, j'ai la tendance à trouver celui qui sont plus sains et sexy, si vous voulez. Et je trouve que c'est aussi dans le quotidien parce que l'érotisme, il y a aussi l'auto-érotisme. Et comment on se soigne, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on met en dessous des vêtements, on s'est prenant soin aussi de la propre sexualité en soi, on nourrit aussi l'érotisme quotidien, non?
Oui, toi Carole, justement, qui est sexologue, comment est-ce que tu le définirais ? Ça se rapproche du coup de cette jolie définition de Bétoni ?
Mais tout à fait, c'est tout à fait ça. Effectivement, au quotidien, on l'a, puisqu'il faut au quotidien prendre soin de soi, sur son corps, son esprit, cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout à tout moment et qui permet justement de nourrir son érotisme, qui permet de voilà, regarder quelque chose, s'émerveiller de quelque chose. On se nourrit de tout pour nourrir son érotisme, sa sensualité, et qui évolue au fil du temps, au fil d'une journée, au fil d'une soirée. C'est ce qui va nous permettre d'être dans l'excitation et après aller dans notre sexualité.
Connecté à soi, non ?
Connecté à soi, tout à fait.
Ouais.
On parle de plaisir dans cette émission et j'ai cru comprendre, Bétoni, que pour vous, le plaisir, c'est comme une mission sur Terre.
Oui, c'est devenu une sorte de mission. Mais c'était à cause du fait que j'ai compris au travers des années de mon travail, il y a 30 ans que j'ai commencé à travailler dans le champ. Et que le problème, c'était qu'il y avait un tabou de plaisir. Ce n'était pas le tabou du sexe en soi, mais le tabou de plaisir.
Pourquoi c'est le plaisir, le tabou ?
Elle était rendue tabou pour l'établissement, pour l'église, pour le monothéisme en général. Parce qu'avant l'arrivée de la monothéisme, le plaisir il était aussi utilisé pour vénérer les dieux et les goddesses. Et ça s'est changé avec le monothéisme. C'est une forme de contrôle. Contrôler le plaisir, c'est une forme de contrôler le genre.
Et surtout le contrôle de la femme, du plaisir de la femme.
Exactement. Exactement.
C'est surtout ça.
Le grand péché, c'est le plaisir de la femme, non ?
Et comment est-ce que vous, justement, vous réussissez à briser ce tabou sur le plaisir ? Comment, concrètement, qu'est-ce que...
Je continue à briser, mais... Je suis entrée avec un pied dans le mode et avec c'était utilisant les accessoires. Je savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire au début. Je savais juste qu'il y avait un manque et ce manque, moi j'ai cherché de le remplir. Je me suis demandé pourquoi je dois aller de mauvais côté de la ville pour chercher des accessoires ou de lubrifiants. C'était vraiment confiné dans les boutiques de gays. C'était pas toujours très confortable pour une femme d'entrer dans ces boutiques. À Paris, il y avait aussi beaucoup de librairies et des boutiques, disons, érotiques. Parfois plus pornographique qu'érotique. Mais je me rappelle, je t'ai suivi parfois en ces boutiques, en sortant, non ? Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque d'accessibilité, un manque de visibilité, un manque de durabilité, de body safe, des objets qui font pas mal au corps. Et moi, j'avais envie de réévaluer l'esthétique de le plaisir sexuel. Donc, c'est commencé dans le 92 avec la collection Sadochic. Et je ne savais pas que j'étais jeune, j'avais 22 ans. Je ne savais pas que ça m'aurait mené sur un chemin de vie. Donc, je continue à briser. Ce n'est pas fini. Il ne faut pas lasser prise. Il faut, dans le sens que le travail à faire, il est toujours là. Et notre droit au plaisir il peut être levé peut-être d'un moment à l'autre. Il faut vraiment être toujours activiste, active.
C'est un combat, en fait, de continuer à garder ce plaisir. C'est bien toujours sûr. Remis en question.
Bien sûr. C'est aussi à cause du fait qu'on est dans une société où tout va vers l'Internet. Et paradoxalement, l'Internet, il est... Le moteur, c'est la sexualité, c'est la pornographie. C'est la première source de revenus sur l'Internet. Mais les gens comme moi qui sont dans le bien-être sexuel et dans une réponse à la pornographie, nous sommes bannis. Donc je l'ôte toujours avec, par exemple, sur l'Instagram ou Facebook, je ne peux pas lier mes pages à une boutique parce qu'ils considèrent que moi je suis un peu le sale, non? Mais bizarrement, il y a des porn stars,
il y a tout un tas de choses.
Et moi, je suis vraiment dans l'érotisme, je ne suis pas dans la pornographie. Et je ne brise pas les lois de la social media, mais je ne suis pas approuvée, on pourrait dire, tout simplement. Je ne peux pas promouvoir, je ne peux pas créer une nouvelle communauté. Je suis bloquée là. Ça, c'est sérieux aujourd'hui.
C'est juste incroyable parce que quand on voit effectivement toute la pornographie qu'il y a et quand on connaît vos produits, quand on vous connaît, quand on a lu votre livre, on se dit que c'est juste incroyable. Parce que de mon côté, en tant que sexologue, je fais de l'éducation sexuelle pour ramener sur le plaisir et puis d'y mettre beaucoup d'élégance parce que sinon on est dans des choses vraiment très glauques. Et tout à l'heure, effectivement, les boutiques, effectivement, à 30 ans à Paris, on ne pouvait pas rentrer en tant que femme seule parce qu'on était suivie dans la rue. Maintenant, ça s'est un peu amélioré, mais c'est pas... Il n'y a rien de...
Ils sont fermés. Hein. Beaucoup, ils sont fermés. Les boutiques qui ont challengé cette approche, ils étaient des femmes, normalement, qui se sont mises à donner une réponse. Et aujourd'hui, la plupart, ils sont fermés. Donc, ça, c'est à cause aussi de le web. Mm. Donc, il y a toujours ce paradoxe. Non? Aujourd'hui, tu ne peux pas entrer dans une boutique, mais tu peux aller acheter n'importe quoi. Hein. Tout.
Ouais, sur Internet, oui.
Ouais, c'est un produit de commerce, non? Mais moi, je suis à la fin entre designer, artiste et bon vivant. Et donc, je promouvre le bien-être sexuel avec vous, non? Parce que
ouais.
Dans l'éducation sexuelle, c'est là qu'on brise les tabous, qu'on brise les limites et on ouvre un horizon plus sain.
Et justement, il faut absolument parler de votre livre, La Bible du boudoir, parce que ça fait aussi, je pense, partie de votre combat grâce à ce livre, qu'on devrait toutes et tous vraiment avoir entre ses mains pour comprendre, pour se comprendre. Et moi, vous venez d'expliquer votre combat pour le plaisir. Votre livre, dans quel état d'esprit vous l'avez écrit ?
Moi, je trouvais que c'était un livre qui manquait. À nouveau, il y a la pornographie. Parfois, c'est très hard. Et les gens commencent à la regarder involontairement à partir de l'âge de 5 ans. Donc, il y a une surexposition à la XXX, la pornographie hard. Et je trouve qu'il y avait tellement de... Moi, j'avais moi-même des questions que j'ai voulu chercher les réponses. Donc, c'est un livre qui vient aussi de mon monde, de mon cœur, de ma vie. Et j'ai voulu expliquer et comprendre moi aussi pourquoi, par exemple, c'est je mis une bande sous les yeux, ou quelqu'un met la bande sous mes yeux, que ça m'aide à lâcher prise. Ou c'est plus excitante, c'est plus... Donc j'ai commencé à me demander des choses comme ça. Et j'ai voulu donner des réponses aussi presque scientifiques, parce que je trouve que... Là, en comprenant le cerveau et le corps et le côté physique de l'amour, ça explique beaucoup. Et ça crée une zone de sécurité qui n'est pas pornographique, mais c'est juste le corps, le fait du corps, le fait de plaisir.
À travers tout ce que vous expliquez, scientifique, effectivement, sur comment fonctionne notre corps et tout ça, inclure de l'élégance et du bien-être sexuel, ça rend ce livre, effectivement, très apprenant. J'en ai lu plein de livres sur tout ce qui concerne la sexualité. Et vraiment, vous avez réussi quelque chose de très beau, très compréhensible de tout le monde. Tout le monde peut le lire. Et puis, ça donne aussi des idées, effectivement. On peut se bander les yeux, voir ce qui se passe, être à l'écoute de son corps et puis comprendre qu'on est en vraie connexion avec l'autre.
Oui, c'est comme une méditation, la méditation de l'amour.
C'est ça.
Être présente et authentique. Et dans le sapiens, dans le savoir-faire, parce que c'est aussi ça, en savant pourquoi ou comment je suis fait, le mystère de la sexualité est un peu dévoilé. Et je trouve qu'on est quand même... On a toujours la tendance à confondre le mystère avec l'ignorance. Et pour moi, j'écris le livre parce que j'ai trouvé que ça manquait et que c'est un peu un délit, non? Rester dans l'ignorance, c'est quelque chose qui est tellement central, tellement qui fait partie de nous dans le quotidien. On pense toujours à la sexualité, nous, humaines. Si on n'a pas, on ne pense. Si on a trop, on peut devenir accro. C'est vrai, c'est une question de comment on cette dimension aussi dans le désir, non? Parce que c'est aussi une drogue. c'est mal géré, et ça peut être une drogue.
Oui, ça c'est sûr, mais c'est faire comprendre à tout le monde que c'est vraiment un plaisir naturel, qui est accessible à tout le monde. Il faut juste l'apprendre. On ne l'a pas appris, personne ne nous le transmet, nos mères ne nous le transmettent pas, nos pères, l'école, rien. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on nous transmet vraiment c'est quoi la sexualité, mais pas que mécanique, sur son ressenti, sur la connexion à l'autre, et au moins quelque chose de savant.
Moi, je te remercie. Je voulais juste donner les clés, non ? Quand j'ai cherché les éditeurs au début pour l'édition en anglais, beaucoup de monde m'a demandé « Est-ce que tu peux écrire à la fin de chaque chapitre une sorte de cérémonie ?» Et j'ai refusé. J'ai dit « Écoute, je n'écris pas la fiction et moi, je ne veux pas influencer le voyage des amants qui lisent mon livre parce que je donne les clés. Après, c'est à vous à ouvrir la porte. C'est à vous à faire votre cérémonie comme vous voulez. Je vous donne les clés. » C'est tout.
Je pense que ça serait bien que tu donnes le cadre de la cérémonie pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre, parce que c'est quelque chose de très différent de tout ce qu'on voit sur la sexualité. Mais c'est tellement joli qu'il faut tous passer dans cette cérémonie.
Mais pour moi, le sexe est sacré. Et la cérémonie, c'est une façon de créer un endroit, un moment, un temps avec l'aimé, le désiré, qui est... nous transporte aussi hors le lieu commun, le vie commun, le quotidien. Et c'est une question aussi de prendre le temps de faire l'amour. Parce que ce que moi j'appelle la pharmacie de notre corps, on peut accéder seulement si on prend le temps. Donc on peut entrer dans cette pharmacie corporelle. C'est on cérémonialise un peu le fast sexe, le sexe fait vite fait, et permet pas ça du tout. Et permet aussi pas du tout de connaître la possibilité de le corps, de nous transporter, et l'amour, le plaisir de nous transporter.
Et justement, on parlait tout à l'heure de l'évolution même de son érotisme. Et moi, je me demandais à quels âges pour quel érotisme, c'est-à-dire de l'âge de... 13 ans, de l'âge de 20 ans, de l'âge de 50 ans, comment est-ce qu'on continue à entretenir cet érotisme et comment est-ce qu'il évolue selon vous ?
Pour moi, c'est une question de l'amour de soi, non ? L'érotisme, c'est quelque chose qui commence avec la sexualité, en vrai. La sexualité avec nous, toujours, mais l'érotisme, ça commence vers 12-13 ans. On commence à lire des livres, à voir, ça évolue. La chose que je trouve qui peut bloquer cette évolution aujourd'hui, c'est la pornographie qui crée vraiment des problèmes dans les relations, comme tu l'as rencontré aussi le couple qui ont souffert parce que normalement c'est l'homme qui prend la dépendance sur la pornographie. C'est 75% des consommateurs sur le site internet. Apparemment, on voit, chez les hommes, ils voient 328 alentours vidéos porno à l'année. Ça veut dire presque un par jour. Ça peut tuer l'érotisme.
Oh ben, ça tue carrément l'érotisme. Parce que ça devient une habitude, ça devient mécanique, il n'y a plus de...
Ça enlève le désir, le vrai désir.
Ça enlève le vrai désir, oui.
Exact.
Ouais. Ouais. Parce que dans la cérémonie, il y a aussi toute la partie que tu dis pas qui est en amont de la préparation. On le prévoit, comme toute cérémonie, on prévoit, on se donne des rendez-vous qui peuvent être chez soi, mais on se prépare. Et du coup, notre imaginaire, notre fantasme se met quand même en route depuis un jour, deux jours avant. Donc,
oui, le moment que tu prends le rendez-vous avec ton amant.
C'est ça.
Ton amour, ton mari. Oui.
Et cette prise de rendez-vous, et ça commence déjà là. Donc, là-dedans, on n'a pas besoin de pornographie, quoi.
Non, mais c'est assez une question avec la cérémonie, quand même. C'est une question d'un peu préparer les choses, non?
Ouais.
On a cette misconception que le sexe doit être spontané pour être bien. Mais je trouve qu'avec les choses que moi suggère dans la cérémonie, c'est aussi une attention à tout le corps dans son entier. Tout le corps, c'est un organe sexuel. Il faut prendre le temps. Et c'est très excitant. C'est le préliminaire qui commence là, dans le moment que tu prends la date.
Non, et sachant que 80% des femmes n'apprécient pas leur corps, donc vont pas dans la sexualité, vont pas dans leur propre plaisir. Donc rentrer dans ce système de cérémonie, ça va faire en fait qu'on va plus apprécier s'aimer soi et s'aimer son corps.
Exact. C'est la cérémonie d'amour.
D'amour.
Aussi de soi. On commence avec soi-même, ouais. Non ?
Ce que je trouve rassurant dans ce qu'on entend, c'est de se dire en fait l'érotisme, on peut le trouver assez facilement au départ, c'est-à-dire qu'on y accède par un mot, par une image. Et ce qui compte pour le développer, si je résume bien, c'est l'amour de soi pour après être dans le partage. C'est un peu ça après le prolongement ou c'est...
Oui, c'est ça. C'est aussi que en cultivant la propre sexualité, on crée une relation et une connaissance des bénéfices, non? Moi, je sais que si je ne fais pas l'amour, je ne suis pas bien. Et généralement, c'est ça, non?
C'est qui vrai fait pour pas tout le monde.
Exact. Et le nier, c'est ça. Les gens ils rentrent dans la frustration, dans la névrose et dans la maladie aussi, non? Et pour moi, la sexualité, c'est un langage qu'on ne peut pas parler si on ne fait pas l'amour.
Puis c'est un besoin.
C'est un besoin.
C'est un primaire, quoi. C'est un besoin. Exact, donc,
on peut avoir des moments où on est seul et j'encourage toujours, j'imagine toi aussi.
Oui, tout à fait.
La masturbation, l'amour à soi, et c'est très important.
Mm-hmm. J'avais une question concernant l'érotisme quand on a souffert physiquement ou psychologiquement. Comment est-ce qu'on retrouve son érotisme? Par quoi, comment est-ce qu'on peut, quels moyens est-ce qu'on peut trouver pour y revenir? Parce que j'imagine que l'érotisme est brisé puisque l'amour de soi est aussi brisé dans ces cas-là.
Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec ça dans les années parce que j'étais tellement naïve quand j'ai commencé. J'ai pensé que tout le monde cherchait le plaisir comme moi et qu'il y avait une relation avec le plaisir harmonieux. Et dans les années, j'ai compris que c'était pas le cas. Et j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui ont été victimes d'abus sexuels à partir de très jeune âge, des cas très extrêmes, et aussi les gens qui ont survécu le cancer. Et il y a une dissociation de corps quand on a subi une violence ou une maladie. Parfois, moi j'ai découvert, je ne sais pas comment tu vois ça, mais il y a une association
avec
le cancer et l'abus sexuel. Je vois un lien quelque part. En tout cas, je travaille parfois à côté les spécialistes, comme toi. Si moi, j'arrive pas à la gérer moi-même. Et c'est, malheureusement, c'est très commun. L'abus sexuel est beaucoup plus commun de ce qu'on imaginerait. Et je crois qu'on est au début maintenant d'une vrai changement culturel grâce au fait que les femmes ils ont décidé qu'ils vont être propriétaires de leur plaisir, de leur corps.
Ben, quand on est dans la souffrance, quand on a subi des abus sexuels ou une maladie, on se coupe de son corps. La souffrance, pour être bien, on se coupe de son corps. Donc c'est sûr qu'après, il y a tout un travail de comment on se réapproprie le corps, comment on se redéfinit. Et tout un travail d'amour de soi qui va permettre de repartir dans l'érotisme. Alors, en fonction des personnes, en fonction de traumatismes, ça prend plus ou moins de temps. Mais ce qui est beau, c'est que c'est possible.
Oui, c'est possible. Mon expérience me montre que quand même, les femmes, ils arrivent à en parler très tard. Donc, toutes mes clientes qui sont en train vraiment gérer le fait... c'est à partir de 40 ans, normalement. Donc, j'encourage aussi les plus jeunes à en parler, parce que c'est quelque chose de très important. Et on sait que le cerveau, dans le trauma, il se coupe, comme tu as dit, il se coupe de corps. Et c'est la façon de survivre, non?
Ouais,
c'est la façon de... Donc, la tendance, c'est quand on est dans une situation amoureuse, on quitte le corps. Donc, notre but, c'est de réassocier le corps et le cœur.
C'est exactement ça. Moi aussi, j'encourage d'en parler de plus en plus jeune, parce que comme ça, on est de plus en plus rapidement dans son corps et ça a envie de vivre avec cette souffrance qui fait mal au quotidien et qui empêche plein de plaisir.
Oui, le problème, c'est que quand même, pour le fait que le cerveau il fait cette coupure, souvent, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Spécialement si c'est quelque chose qui est arrivé très jeune, à partir de l'enfance, ça peut arriver. De qu'on est adolescent, on a une façon différente à gérer les choses. Et normalement, on s'en rappelle tout. Donc, c'est un autre problème, non? Mais avant l'adolescence, c'est quelque chose qui souvent est complètement bloqué par le cerveau. Donc, comment ça arrive à la surface? Ça arrive. À un certain point, ça arrive.
Bah après d'autres événements de notre vie qui arrivent, le fait des, pour certaines personnes, c'est quand on devient maman, quand il y a une rupture, un divorce, quand il y a des choses encore douloureuses qui arrivent. À ce moment-là, bah, le corps, il en peut tellement plus que bah, tout ça, je dis, ça remonte.
Ouais, c'est notre trauma.
Voilà. Et c'est là que les femmes commencent à s'en occuper. Et des hommes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont abusés sexuellement.
205, on dit.
Ouais, donc, voilà, à des moments de vie, on ne sait jamais quand est-ce que ça va remonter. Mais ça remonte et c'est là qu'il faut écouter, prendre en charge. Quoi.
Il faut aussi le gérer. Mmh. Parce que c'est quand même, malheureusement, je peux dire ça, c'est la norme. Mmh. C'est, tristement, c'est un peu la norme. Donc il faut savoir que vous n'êtes pas seul.
Oui, c'est ça. On n'est pas seul.
Malheureusement.
Mais Tony, vous avez donc cette marque de bijoux érotiques, sensuels, esthétiques, qui sont absolument magnifiques d'ailleurs, rien Merci. qu'à regarder. et en fait, j'aimerais savoir, avec ces bijoux, vous, quel est votre rapport au BDSM? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui juge? Quel est votre rapport?
Je trouve que c'est, comme toutes les catégories, c'est un peu limitation. Moi, j'ai voulu briser cette barrière parce que ça peut créer aussi pour les gens, par exemple, si tu me dis, moi, j'ai envie d'être fessée. Et ton partenaire dit, ah, moi, je ne peux pas faire ça, c'est perverti, c'est BDSM. Déjà, c'est une limite, non? Moi, j'aime l'idée que tout va bien et on est consensuel dans nos relations sexuelles, qui est le jour. C'est bien, ça fait du bien. Pour moi, le BDSM, c'est le jeu. C'est drôle, c'est sexy. Ça nous aide aussi à sortir de la quotidienne. Et pour moi, c'est vraiment le jeu, tout simplement.
C'est un jeu, exactement. C'est
vraiment et le cerveau et le corps, nous avons, en tant qu'humains, nous avons besoin de jouer. En tant qu'adultes aussi. Ils disent toujours, toujours pas, mais la plupart des parents ils disent à les enfants, ah mais arrête de jouer, arrête, tu es un ado, mais non, tu arrêtes de faire les bêtises. Moi je trouve que ça c'est une erreur. Il faut jouer tout le temps, il ne faut jamais perdre l'enfant en soi.
En fait, la définition du BDSM, la définition populaire du BDSM, elle est complètement erronée. Quand on entend ce que vous dites, comment vous en parlez, enfin, on se rend compte quand on va taper sur Internet ou chercher dans un dictionnaire, c'est pas du tout cette définition du jeu, du plaisir qu'on va retrouver.
Malheureusement, non. Oui, mais on peut changer ça, ouais. Non, en parlant avec vous.
Justement, on va en changer, c'est ça le but.
C'est le but.
Parce que dès qu'on est petit ou petit, on se raconte des histoires, on joue. À plein d'autres choses. Et dans cette pratique, il y a des scénarios qui sont joués et qu'on peut mettre tellement de choses. Et tout ça est fait avec bienveillance, élégance, respect de l'autre. Donc en fait, il est là le jeu, parce qu'on recrée des histoires, parce que depuis un certain temps, on nous dit non, c'est pas bien, il faut que tu sois sérieux, il faut que tu fasses tes études. Mais là, c'est un moyen de repartir dans son enfant intérieur et dans le plaisir, évidemment, sur de la sexualité.
Pour moi, c'est un moyen aussi de sauver les relations. Parce que, honnêtement, la sexualité qui est vraiment phallocentrique et un focus purement sur les génitaux, à la fin de très peu de temps, les couples commencent à s'ennuyer. Parce que c'est répétitif. Et c'est seulement une partie de nous. C'est le centre, l'énergie sexuelle, il est généré au centre du corps, dans les génitaux. Mais ça peut arriver en toutes les cellules, non?
Oui.
et en tout le corps. Donc, moi, j'encourage les gens de prendre le temps de charger tout le corps. Et ça, ça veut dire aussi le monde, et ça c'est l'érotisme, avec l'amour, le plaisir. Et en faisant comme ça, on allume tout le corps et on sort d'une sexualité qui avait effectivement la fonction de faire des bébés. Et aujourd'hui, faire l'amour, c'est pas seulement parce qu'on veut faire le bébé, non. Au contraire, nous sommes beaucoup. On peut faire moins de bébés et beaucoup plus d'amour.
En fait, on brise complètement le cliché que la sexualité qu'on s'approprie, qu'on a, est une sexualité aussi qu'on a vue dans les films, dont on a entendu parler quand on était adolescente. C'est une sexualité en fait qu'on reproduit parce que c'est celle qu'on entend, c'est celle qu'on écoute, mais c'est pas celle qu'on écoute en soi. On est encore dans ces catégories, dans ces systèmes, dans ces reproductions. Et au bout d'un moment, on se rend compte que je trouve pas de plaisir dans ma sexualité parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Exact, c'est ça, et c'est aussi le danger encore, on parle de pornographie, parce que la vision de la pornographie, avant qu'on ait une propre sexualité, ça forme les choses. Donc, le porno, c'est la mauvaise prof, c'est vraiment un très mauvais professeur.
Oui, puis moi j'entends aussi souvent les gens, plutôt des femmes, qui disent « ouais, mais au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, quoi ».
C'est ça.
C'est comment à ce moment-là dire ok, mais on peut trouver d'autres manières de faire, comment on va justement aller dans l'érotisme. Et du coup, là, ça laisse des perspectives énormes. Puisque ouais. Là, chacun va créer son propre érotisme avec son partenaire. Et c'est gigantesque.
Oui, je crois que peut-être la chose la plus difficile, c'est de faire la démarche ensemble, non? Parce qu'on est dans une société qui a toujours enseigné les hommes, qui savaient tout, tout était inné, tout était dans eux. Et c'est pas correct. Il faut mener les hommes avec nous, pas l'écraser. Nous avons besoin aussi des hommes dans nos vies. Et eux, ils ont un peu de témoin. Parfois, quand on parle d'apprendre sur la sexualité. Mais le fait, c'est que ni eux, ni les femmes, ils sont nés avec la conscience. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour rien. Parce que c'est depuis les années 70 qu'il y a eu beaucoup de recherches. À partir des années 50, mais vraiment arrivant à les années 70. Et après, avec le HIV, toute cette recherche, elle était un peu coupée. Et il a commencé une ère de terreur de sexe. Aujourd'hui, être informé, intelligent et continuer à cultiver une vie sexuelle, c'est possible. Et je trouve que c'est très important qu'on ait la connaissance, non? Donc, avec la Bible du boudoir, j'ai voulu donner ces clés de la connaissance.
C'est ça qui est vraiment encourageant aujourd'hui, c'est qu'on, rien qu'on soit ici toutes les trois à parler du plaisir, c'était des choses qu'on n'aurait peut-être même pas pu imaginer il y a 10, 15 ans, d'avoir cette safe place et parler sans tabou de ces choses. Moi, je voulais savoir, vous qui êtes un peu notre icône du plaisir aujourd'hui, à briser ce tabou, j'aimerais qu'on se prête à un petit exercice pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est pourquoi, pour vous, leur sexualité doit faire partie de leur vie et ne plus être un élément un peu éloigné qu'on regarde de temps en temps, une fois par mois.
Mais pour moi, parce que c'est lié à votre bien-être général. C'est vraiment intégré, il n'est pas séparé, il ne faut pas le mettre à côté. Il fait partie de nous. Et quand je parle de bien-être, je parle de bien-être physique, émotionnel, spirituel, mental.
Oui.
À la fin, rien n'est indépendant, là. Tout dépend. Par exemple, quand quelqu'un vient vers moi et me dit « Ah, ma vie sexuelle, elle est vraiment pas ce que je veux », je demande toujours « Mais qu'est-ce que vous faites avec le reste de ta vie ? Qu'est-ce que vous mangez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous lisez ? Vous êtes physique aussi dans votre vie ? Quelle relation vous avez avec votre corps, avec votre partenaire ? C'est comment la communication ? Qu'est-ce que vous mangez ?» Tout est lié.
«
Alors du coup, Bethony, tu fais aussi, au-delà même de ton travail de designeuse, de ton travail en tant qu'autrice, tu proposes d'autres choses aussi, tu fais des ateliers.
Oui, j'ai fait des ateliers. J'ai commencé dans les années 90 en travaillant avec les collectionneurs, en leur initiant à l'utilisation des outils. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que pour continuer à faire le côté design, c'était obligatoire que j'ai assumé aussi le rôle d'éducatrice et de counselor. Je sais pas comment on pourrait mieux dire ça en français. Aide-moi, mais coaching ou...
Ouais, d'accompagnatrice aussi.
D'accompagnatrice. Ouais.
Éducatrice à sexualité.
J'ai créé un rôle. Et au début de siècle, j'ai commencé à faire des petits groupes avec le soutien de Soho House et aussi de Coco de Mer, qui était l'un des premières boutiques d'érotisme vraiment dédiées aux femmes à Londres. Et cette partie de mon travail, c'est plutôt à bouche à oreille. Je travaille, c'est depuis 30 ans. Que je guide les gens. Je fais l'atelier et les workshops et je travaille à côté avec le couple.
C'est très joli comme nom guide.
Oui.
Guide de la sexualité, que vous guidez les gens. Ça peut être ça, le nom du métier qu'on cherchait.
Ah, merci. Mais oui, c'est une bonne façon de l'expliquer parce que je ne suis pas docteur. Je suis quand même certifiée dans l'hypnose clinique. Que j'utilise parfois pour arriver dans les problèmes de l'abus, etc. C'est très efficace. Aussi dans la guérison, c'est quelque chose de très couture. J'adore comme méthode. C'était très utile. Et aujourd'hui, quand même, je suis en train de me préparer pour faire un deuxième master en neurosciences. Parce que je suis très proche à cette champ de la science. C'est la nouvelle science quand même depuis les années 50. Mais le travail que je fais avec le couple, avec l'individu, c'est très important pour mon travail parce que ça m'a permis de, un, aider les individus, et deux, travailler plus proche à la communauté aussi des guérisseurs, des docteurs, des psychologues et sexologues. On est alliés parce que c'était quelque chose d'organique, mais je travaille à côté de vous, avec plaisir. Oui, j'ai une méthode que je suis en train de développer depuis 30 ans, et c'est grâce à vous aussi qu'on partage et on travaille ensemble pour arriver à faire découvrir à nos clientes l'importance et la valeur de le plaisir.
Merci beaucoup, Bethony Vernon, de nous avoir embarqués durant ce podcast au royaume du plaisir. On va l'appeler comme ça. On est ravis d'avoir brisé ce tabou du plaisir et de l'érotisme. Merci, Carole. C'est le dernier épisode de la saison 2 de Vibrante. On se retrouve l'année prochaine avec toujours autant d'énergie pour briser ces clichés autour de la sexualité. Merci, Bethony. Merci, Carole.
Merci. Je suis avec vous.
C'était Vibrant.
Vibrante.
Un podcast de Grande Contrôle réalisé par Anthony Aran. Chaque mois, Carole et Laura discutent de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité.
À écouter sur toutes les plateformes de podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.